Frères et sœurs, bonjour à vous tous. En ce premier dimanche de l'année, en ce 1er janvier, je veux simplement vous dire ma joie d'être avec vous ce matin. Le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les enfants d'Israël. Ils diront que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les enfants d'Israël, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère et sauveur. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour ce temps mis à part dans notre vie ce matin. Que ce soit un temps d'apaisement, un temps de recueillement, un temps où par ton esprit nous apprenions à vivre en communion avec Jésus, le Christ, et les uns avec les autres. Amen. Psaume 67, psaume du jour, au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume de David. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous son visage, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô notre Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le reconnaissent. Amen. Et nous chantons le psaume 67, B, page 78, et nous chantons les deux strophes.
Et nous serons élus.
Frères et sœurs, recevons le commandement que Dieu nous adresse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, ne proférons plus de mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il s'adonne à la solidarité en secourant ceux qui en ont besoin. Ne colportons nul mauvais propos, mais proclamons toute bonne parole capable d'édifier, de réjouir et de consoler ceux qui l'entendent. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, maître de notre salut. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage doivent être chassés de nos vies. Au contraire, essayons chaque jour d'être bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnons-nous mutuellement, puisque Dieu, en Jésus le Christ, nous a déjà pardonné. Amen. Frères et sœurs, situons-nous humblement devant Dieu, dans la conscience de nos manquements et des fautes que nous avons commises, par action ou par omission, par nos paroles ou nos pensées. Je vous invite à faire silence. Ô notre Dieu, ce monde est le tien. Aide-nous à le faire tien. Cette création vit de ton amour. Aide-nous à la faire vivre de ton amour. Ce monde marche vers l'avenir que tu lui donnes. Aide-nous à le faire marcher vers l'avenir que tu lui donnes. Tu fais de nous tous tes enfants. Aide-nous à vivre comme tes enfants. Tu prépares des œuvres bonnes pour chacun de nous. Aide-nous à accomplir ces œuvres bonnes. Ô notre Dieu, si nous ne parvenons pas à avoir confiance, si nous n'agissons pas, les ténèbres nous envahiront. Et tout ce que nous aurons espéré, tout ce que tu auras voulu, perdra toute existence. Mais si nous croyons, si nous agissons, même si les ténèbres nous touchent, la lumière y brillera. Nous verrons ton nouveau ciel, ta nouvelle terre, et tu feras par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you. Dieu est amour. Il entend, il reçoit la confession de notre cœur. Par Jésus le Christ, notre péché nous est pardonné. Par l'Esprit de sainteté, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance.
Vous pouvez prendre place. Grand merci à Florence Taubman donc de nous permettre de démarrer ainsi l'année du bon pied. Et puis j'accueille avec grande joie Emma qui a demandé à être baptisée parmi nous ce matin. Alors merci beaucoup, voilà, pour ce geste pour démarrer l'année. Merci à vous d'être présent aussi pour que la nouvelle année s'ouvre ainsi sur vraiment pour faire place à Dieu dans notre existence. Alors Emma, nous nous réjouissons que vous soyez ici ce matin, que vous ayez demandé le baptême. On est reconnaissant car c'est un magnifique cadeau pour nous, une grande joie, une impulsion dans notre propre cheminement avec Dieu. Et puis nous nous réjouissons pour vous de voir que vous arrivez ainsi à faire place à cet amour de Dieu qui a précédé avant même votre naissance. Alors cet amour de Dieu, vous y êtes sensible, vous l'avez vraiment reçu, vous l'avez reconnu, et puis vous, finalement, vous avez pu, grâce à cet amour, sortir de l'athéisme et aller rechercher qu'est-ce que pouvait bien être cet amour qui vous avait rejoint. Donc vous avez creusé, vous avez ouvert la Bible, pour chercher à interpréter ce qui vous arrive. C'est une excellente démarche. Et puis vous cherchez, à travers le baptême, eh bien, à faire place aussi à une dimension plus collective, plus communautaire de cette recherche de Dieu, de cette interprétation, de cet amour de Dieu qui nous touche. Alors vraiment, excellente démarche. Vous avez pu nourrir ainsi un vrai et beau cheminement, non seulement mystique, mais encore intelligent, sincère, responsable. Alors c'est vrai que vos études de lettres vous donnent aussi des facilités pour chercher, pour interpréter, pour mettre des mots. Et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure en expliquant un petit peu votre démarche et votre foi. Mais le baptême est avant même la foi, le signe de cette grâce de Dieu. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, eh bien cet amour de Dieu sera à vos côtés pour vous accompagner, vous porter, vous libérer et mettre une lumière sur votre cheminement. Chaque jour, ce baptême vous redira l'importance que vous avez aux yeux de Dieu et la place que vous avez dans cette grande famille des croyants et en particulier la grande famille de ceux qui cherchent Dieu en suivant Jésus-Christ. Emma, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Emma, Dieu vous bénit et vous accompagne de son amour, l'Éternel, Dieu de la genèse du monde, Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, Dieu d'Isaac, Dieu qui ouvre des sources dans nos déserts, Dieu de Jacob, Dieu du combat, Dieu de Moïse, Dieu des prodiges pour nous libérer, Dieu de David, Dieu des louanges à l'Éternel, Dieu du prophète Élie, Dieu de la faim rassasiée, Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour. C'est l'Éternel, ce Dieu, qui fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne la paix. Alors, dans la liberté que Dieu nous donne d'entrer ou de ne pas entrer dans son alliance, aujourd'hui, Emma, vous répondez à l'amour de Dieu par votre foi en lui. À ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée », vous lui répondez d'abord dans votre cœur, dans vos actes, dans votre vie, dans votre prière, mais aujourd'hui, publiquement, dans son Église, vous lui répondez « Tu es mon Père que j'ai dans les cieux ». Alors, vous pouvez confesser la foi chrétienne avec les mots que vous avez écrits et que je découvre avec vous ce matin. Alors, ce sera notre confession de foi pour nous ce matin, donc je vous propose de vous lever pour vous associer par la foi à ces mots d'Emma.
Ça risque d'être difficile de parler de choses profondes à voix haute. Merci à vous d'être là. Oui, vous parlez me fait déjà du bien, et le Dieu en lequel je crois n'est pas un Dieu de solitude. C'est un Dieu d'amour. Il chasse la solitude, il me sort de mon existence et il fait que je ne suis plus tout à fait moi-même en écrivant cela. Je crois en Jésus-Christ et en l'amour de Dieu pour les hommes. Je crois aussi que nous sommes tous nés pour être sauvés. Il y a un passage dans l'évangile de Luc qui me le fait penser très fortement. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est le bon larron qui parle et Jésus lui répond. En vérité, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Luc 23, 42 et 23, 43. Et oui, pour moi, cet aujourd'hui est aujourd'hui. Je veux dire que depuis que j'ai senti vivre en moi cette parole du Christ, je sens que le paradis est en moi. Vraiment. Et depuis ce moment, mon chemin s'est comme inversé. Je ne prie plus Dieu comme autrefois pour qu'il me sauve, mais pour le remercier de m'avoir sauvée. L'histoire est finie, l'histoire commence, et depuis ce moment-là, il me semble que mon chemin va du paradis au paradis. Dire le mot paradis une fois profondément a suffi à ce qu'il soit presque là, tant de force contient ce mot. S'il m'arrive parfois de douter, ce n'est plus de son amour, mais du mien que je doute. Et je sais que les jours où je ne le vois pas, ce n'est que parce que mon esprit n'est pas assez grand pour soutenir une grâce immense. Qu'il reste avec moi, j'aimerais n'avoir à le prier que pour le remercier d'être là. Amen.
Un grand merci, Emma, pour ces paroles si profondes, si vraies, si sensibles. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Emma, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Et je voudrais ajouter quelques mots de prière pour vous. Oui, notre Père, nous te remercions de tout cœur pour Emma, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Fais que son témoignage rayonne de la plus belle façon dans ce monde, car oui, il y a là, dans cette foi qu'a Emma, quelque chose qui mérite de vivifier ce monde que tu aimes tant. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force et qu'elle accompagne Emma tous les jours de sa vie. Amen. Un grand merci.
Seigneur, ta parole est une lampe sur notre chemin, une lumière sur nos sentiers. Je ne ferai qu'une lecture ce matin, celle de l'évangile de Luc au chapitre 2, du verset 7 au verset 21. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à chanter un cantique de circonstance. Sortez, bergers, de vos retraites, au numéro 102. Prions Dieu avant de prononcer cette prédication, afin que les paroles que nous avons entendues deviennent paroles de vie. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus le Christ, toi qui es le Dieu de beaucoup d'hommes et de femmes en ce monde, de beaucoup d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es le Dieu des chrétiens d'Orient, en ce moment gravement persécutés pour leur foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Toi qui par ton esprit assemble ce matin les croyants au lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent de toi et rend attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour la terre entière. Frères et sœurs, nous voici en compagnie des bergers de Judée, gardant leurs troupeaux sous les étoiles. Et d'une certaine manière, cette nuit peut très bien nous convenir. Car malgré nos fêtes, malgré nos chants, malgré nos sapins illuminés, malgré nos festins, malgré nos réunions de famille chaleureuses, joyeuses et gastronomiques, nous sommes dans la nuit. Non pas cette nuit devenue quelque peu étrangère aux cieux de nos villes, mais la nuit de l'âme. Oui, frères et sœurs, d'une certaine manière, la nuit est en nous. Un coin de notre conscience est enténébré. Une bonne partie de nos pensées, de nos conversations, de nos préoccupations témoignent des grandes angoisses de ce temps que nous vivons. Menaces terroristes, et nous avons vu encore hier soir à Istanbul que les menaces ne demandent qu'à passer à exécution. Guerres et réfugiés, misère et corruption dans une grande partie du monde et dans nos villes, multiplication des sans-abri. Au moment même où certains de nos jeunes ne trouvent pas d'emploi et désespèrent de l'avenir, au moment où certains de nos concitoyens désespèrent du présent et envisagent pour l'avenir des solutions politiques radicales et dangereuses. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la nuit. Nous sommes d'une certaine manière, sans vision ou sans grande vision, sans perspective ou du moins sans ces grandes perspectives qui nous donnent de la joie au cœur et du dynamisme dans nos actions. Alors, le chant des anges, peut-il déchirer notre nuit? La bonne nouvelle reçue par les bergers il y a quelques 2000 ans peut-elle résonner pour nous de manière significative? Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des discours pieux ou de s'exalter à coups d'alléluia pour s'assurer une belle évasion hors de ce monde si difficile. Est-ce que Noël a un sens réel, concret pour nous aujourd'hui? Ruminant ces questions, je suis sortie de chez moi quelques jours avant Noël pour aller au Franprix, tout simplement, faire quelques courses. Et à une trentaine de mètres du portail, allongé contre le mur, vaguement emmitouflé dans un sac, un jeune homme dormait. Il avait brûlé quelques papiers, quelques vieilles revues pour se réchauffer et il était barbouillé de cendres, peu appétissant. Donc, je suis passée, me demandant après tout s'il était vivant ou s'il était mort. Mais je vous l'avoue, n'ayant aucun courage à ce moment-là, aucune force pour faire les quelques pas nécessaires pour aller vérifier. Ce n'est pas glorieux. Et nourrissant au fond de moi le triste scepticisme du chrétien honteux, et qui plus est pasteur, et qui plus est réfléchissant à cette prédication qu'il fallait préparer pour le 1er janvier à l'oratoire. J'ai failli téléphoner à Marc pour me décommander. Vraiment. Car je ne pouvais me duper moi-même en me construisant les mille et une justifications susceptibles de rassurer ma très mauvaise conscience, ma conscience désespérée, ma conscience fatiguée, ma conscience paresseuse. Frères et sœurs, si je parle de cette façon-là, de manière extrêmement personnelle, ce n'est pas pour vous dévoiler mon intimité, mais c'est parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas et que cette confession publique fait écho aussi à ce que vous pouvez vivre les uns et les autres dans votre existence quotidienne. Raconter Noël, s'émouvoir devant la crèche, critiquer l'excès de bien-être et de richesse, faire l'aumône d'une petite pensée pour les pauvres et les enfants du tiers-monde, donner même un peu de sous, et ne pas s'arrêter devant ce jeune homme pour vérifier s'il était en vie. Heureusement, quand je suis revenue, il était éveillé, et donc moi, rassuré. Et cet œil ouvert m'a quand même encouragée à aller lui parler, à lui poser quelques questions. En plus, il était malgache. Et comme je revenais de Madagascar quelques semaines avant, nous avions de quoi échanger, à lui demander s'il avait un petit peu faim. Et comme c'était oui, j'ai eu la joie, parce que vraiment je l'ai ressenti comme une joie, de pouvoir lui descendre un peu de soupe, des sandwichs et des fruits. Et comme il avait froid, un nouveau sac de couchage, un pull et des chaussettes. Parfois, frères et sœurs, nous sommes quand même un petit peu sauvés par les œuvres. Oui, mais après, mon mari, de son côté, a passé une heure ou plus à téléphoner au 115, mais les abris étaient archibondés. Il n'y avait pratiquement aucune chance pour notre Christian, puisqu'il s'appelle Christian, de trouver une place. Il en avait déjà bénéficié deux nuits auparavant. Question suivante. Nous la sommes posée. Et alors? Non. Non, nous n'avons pas invité Christian à venir chez nous. Et ce nom n'était pas instinctif, c'était un nom discuté, un nom réfléchi. Mais bien que réfléchi, ce nom n'a nullement fermé le dilemme de Noël, le dilemme de celui ou de celle qui se dit chrétien ou chrétienne. Il y a les bergers, il y a la voix des anges, il y a la prière pour les démunis, il y a l'engagement à l'accueil, il y a l'engagement à ouvrir son cœur, à ouvrir sa maison, tout le blabla religieux que nous savons très bien psalmodier sur tous les tons. Et il y a ce qu'on appelle le réel, la réalité, qui est juste beaucoup plus complexe que nos états d'âme, nos désirs, beaucoup plus complexe. Cette réalité qui n'oublie jamais personne et qui nous attend avec ses exigences, y compris au lendemain de nos grands coups de cœur. Noël est le début d'une histoire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il en va de même pour Pâques et pour Pentecôte. Mais alors quoi ? L'exigence biblique de traiter le prochain en frère, en autre soi-même, ne retentit-elle pas avec encore plus de force et d'exigence à Noël, à Pâques, à Pentecôte ? Couvrir l'homme nu qui a froid, nourrir celui qui a faim, accueillir le sans-abri, consoler le malheureux. Et nous n'avons pas accueilli dans notre maison le malheureux Christian qui a repris son chemin dans les rues de Paris, d'abri de fortune en abri de fortune. Tout au plus l'avons-nous nourri et réchauffé un moment. Il n'y a pas eu de miracle de Noël. Et pourtant, frères et sœurs, la question est restée ouverte, vraiment ouverte. Avec une grande dose de mauvaise conscience, évidemment. Le soir même, je partageais cette histoire et cette perplexité avec un de nos amis chez qui nous dînions. Il est agnostique. C'est un historien, donc il est agnostique. Il réagit tout de suite en me racontant le choc qu'avait été pour lui, à l'âge de 15 ans, le film de Buñuel, Nazarin, où il est question d'un prêtre dont la générosité sans limite le conduit finalement à la misère et à une forme de mort. À partir de là, notre ami, nous dit-il ce soir-là, était devenu fort sceptique sur les discours religieux et il avait converti sa foi religieuse en action politique. La question est, pour nous, c'est simple, c'est jusqu'où l'imitation de Jésus-Christ. Jusqu'où la passion ? Quelle est la bonne mesure ? Est-ce la démesure de celui qui donne tout et même sa vie jusqu'à en mourir ? Mais voulons-nous mourir ? Est-ce cela qui nous est demandé ? Nous le savons, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous Mère Teresa ou le Père Pedro. Ou alors, nos demi-mesures peuvent-elles être considérées finalement comme la bonne mesure ? Cela paraît un peu petit, mesquin, pour la grande nouvelle de Noël, pour la grande nouvelle de Pâques et la grande nouvelle de Pentecôte. Bonjour la mauvaise conscience. C'est peut-être cette conscience-là, cette mauvaise conscience qui fait de nous, quelquefois, des chrétiens un peu fatigués au bout de 20 siècles. Et malgré la grande chaîne des magnifiques témoins qui ont éclairé les siècles de l'histoire humaine. Voici donc, frères et sœurs, la teneur des propos échangés lors de ce dîner avec notre ami. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, dans notre conversation. Et, croyants et agnostiques, nous avons presque en même temps, avec des mots légèrement différents, affirmé avec une profonde émotion et même une sorte de ferveur et beaucoup de conviction que Noël reste néanmoins une nouvelle extraordinaire. Le chant des messagers dans le ciel a porté jusqu'à nous une annonce qui a véritablement bouleversé l'histoire des hommes, l'histoire des nations. Le divin, le transcendant, celui qui s'est révélé à Moïse comme à la fois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et l'existant de toute éternité, je suis qui je serai. Ce Dieu s'est incarné, il s'est fait connaître, il s'est donné en ce petit juif né dans l'étable de Bethléem, Yéhoshoua, le Sauveur. Et la nouvelle inouïe au cœur de cette nuit de Judée, c'est qu'à partir de ce moment-là, où l'incommensurable, l'infini, l'éternel, quel que soit le nom qu'on lui donne, à partir du moment où il se rend présent en un seul petit bout de chou, en un seul petit être, à l'aube de sa vie et même avant sa naissance, eh bien, cela signifie que cet infini, cet incommensurable, cet éternel se rend présent en tout être, en chacun. Nous ne sommes plus une foule, nous ne sommes plus une horde, nous ne sommes plus une espèce, nous ne sommes plus un ensemble de races, nous ne sommes plus un sexe fort et un sexe faible, ou encore je ne sais quelle catégorie, nous sommes des personnes uniques, précieuses aux yeux de l'Éternel. Voilà ce que l'humanité reçoit dans la nuit de Noël. Elle reçoit dans l'enfant Jésus la confirmation étendue à tous de ce que le peuple juif a déjà reçu dans la première alliance, à savoir la connaissance et la promesse que tout être humain est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Frères et sœurs, c'est sur la base de cette affirmation et de cette confirmation que s'est construit à travers les siècles, et non sans heurts, sans lenteur, sans retour en arrière, sans difficulté, sans trahison, sans polémique, l'humanisme dont nous sommes les héritiers. Humanisme religieux, humanisme philosophique, humanisme anti-religieux aussi, mais il ne fait que répondre au premier. Humanisme laïque, humanisme politique, quel qu'il soit, cet humanisme est universel, il est pour tous. Mais la source profonde de cet humanisme vient de ce lieu-là, de cette nuit-là, où le chant des anges a ravi l'ouïe et le cœur des bergers de Judée. Frères et sœurs, nous avons, avec notre cher ami, poursuivi cette conversation sur ce thème, allant jusqu'à affirmer et affirmer encore qu'un seul et même humanisme unit les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non, et de quelque religion même que ce soit. Mais ensemble, nous sommes convenus que sa source est bien vraiment judéo-chrétienne. Puis notre ami nous a donné avec joie un exemple de cet humanisme partagé dans son petit village où il vit, pas loin d'Angoulême. Et donc dans ce petit village, le maire, qui est socialiste et non-croyant, nous a-t-il dit, c'est un de ses amis, a décidé avec son conseil d'accueillir des familles de réfugiés syriens. Et ce sont principalement des paroissiens catholiques qui ont organisé l'accueil, mais non sans l'aide de tous ceux du village qu'ils ont su mobiliser, à savoir des non-chrétiens, des non-croyants. tout un chacun de bonne volonté. Et tous travaillent ensemble pour humaniser cet accueil, pour le rendre chaleureux et positif du point de vue de l'intégration. C'est un exemple, mais ce n'est pas le seul exemple dans nos villages et dans nos villes. Alors, nous retrouvons bien sûr notre question de départ. Que signifie accueillir 5 ou 6 familles quand ce sont des milliers de familles qui ont dû fuir leur pays et qu'une majorité vit dans des camps? Que signifie donner une soupe ou un sandwich à ce jeune homme qui va encore errer d'abri de fortune en abri de fortune, et alors que des jeunes gens, il y en a des milliers, rien que dans notre ville de Paris? Frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, nous devons accepter que notre mesure ne soit bien souvent qu'une demi-mesure et que l'autre moitié reste notre mauvaise conscience. Nous pouvons un peu, nous ne pouvons pas tout, mais nous devons faire toujours un peu plus et jamais ne nous consoler de ne pouvoir faire davantage. Ce terrible inconfort est le signe de notre humanisme. C'est le signe que nous sommes encore dans la condition historique des enfants de Dieu. À la fois pécheurs, à la fois justifiés, toujours pénitents, disait Luther. Alors, nous devons, malgré la nuit que j'évoquais tout à l'heure, malgré encore cette tragédie qui est arrivée à Istanbul la nuit dernière, à cause d'un fanatique sans doute, on ne sait pas, on ne l'a pas retrouvé. Nous devons néanmoins nous réjouir. En ce début d'année 2017, de ce trésor humaniste porté jusqu'à nous à travers les siècles. Ce trésor d'humanisme qui nous vient de ce que Dieu a choisi d'être Immanuel. Dieu avec l'humain, Dieu pour l'humain, Dieu en l'humain. Gardons-le. Gardons-le précieusement contre tous ceux qui veulent l'attaquer et le remettre en cause. Les fanatiques et les extrémistes de tous bords qui, eux, prêchent un Dieu contre l'homme, un Dieu pour la mort et non pour la vie. Nous avons vraiment le devoir et la responsabilité de transmettre à nos enfants et aux générations qui viendront cette vérité en s'incarnant en ce petit enfant que fut Jésus de Nazareth. Dieu a inscrit sa divinité en chaque être humain, en tout être humain, pour la vie, pour la liberté et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Émerveillons-nous ensemble » qui est le numéro 108 et nous chantons les trois strophes.
Vous pouvez prendre place.
Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de l'offrande.
Non, pas. Alors, il y a quelques annonces.
Ah, d'abord, le moment des annonces.
Quelques annonces. Donc, d'abord, un grand merci donc, à Florence Taubman. Donc, elle est pasteur en ce moment au DEFAP Service Protestant des Missions pour cette solidarité internationale aussi que nous veut avoir notre Église. Et le DEFAP est donc un peu le bras armé de cette solidarité internationale, je pense, aussi pour se faire l'écho de tout ce que se vit de beau dans bien des pays, dans bien des églises protestantes de par le monde. Grand merci à Aurélien donc, qui nous a accompagnés pour ce culte, et c'est vrai que la musique y prend vraiment une place importante. Alors, je voudrais remercier aussi l'équipe de repas qui, en face, dans l'ombre, est en train de nous préparer un repas de fête dont vous pouvez, si vous le désirez, même si vous n'êtes pas inscrit, venir à ce repas. Donc, nous partagerons donc la volaille à l'orange. Il y aura toujours de la place pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, merci aussi à l'équipe de librairie qui est là-bas, qu'on voit, qui est aussi de bon pied et de bon œil pour nous inciter donc à la lecture, pour approfondir notre réflexion. Merci aux sacristains, merci à vous tous et toutes d'être là, et grand merci à Emma encore qui nous a invités donc à faire place à ce paradis que Dieu met à l'intérieur de nous-mêmes. Alors donc à la sortie du culte, ceux qui le désirent peuvent rejoindre le repas. Mardi à 20h, il y a le groupe philosophie et théologie, donc pareil, aux 4 rues de l'Oratoire, avec Denis Guénoun, une réflexion sur le temps à partir de cet incroyable passage du livre 11 des Confessions de saint Augustin sur le temps, passage qui est aussi énormément étudié en philosophie, mais qui a une profondeur théologique remarquable. Mercredi à 15h30, il y a le groupe grec biblique avancé. Mercredi à 19h30, toujours en face, rue de l'Oratoire, il y a le groupe d'étudiants et jeunes actifs avec un dîner partagé. Donc, ils peuvent venir avec quelque chose à partager pour le repas. Et donc, nous avons comme thème de notre débat pour ce soir-là le mystère de l'incarnation. Alors, ça semble, et c'est un patois théologique absolument obscur, le mystère de l'incarnation, mais ça a à voir profondément avec ce que nous disait Florence, avec ce grand écart finalement qu'il y a entre l'infini de Dieu et puis la réalité de la vie en ce monde que Dieu aime, avec ce cheminement, voilà, dans cette entre-deux finalement de l'esprit et de la chair. Alors jeudi à 19h30, il y a le chœur de l'oratoire qui se réunit pour sa répétition. Le chœur recrute en particulier des sopranes, des ténors et des basses pour un nouveau programme, des œuvres de Mendelssohn qu'il prépare en vue d'un concert qui aura lieu donc le 29 juin. Alors le chœur nous invite aussi samedi à 16h et à 17h, donc pour préparer le culte de dimanche prochain. Donc même si vous ne faites pas partie du chœur, si vous ne voulez pas venir comme ça tous les jeudis pour chanter, vous pouvez venir samedi prochain à 16h si vous savez déjà chanter, ou à 17h si vous vraiment vous débutez, pour préparer donc le culte de dimanche prochain. Alors dimanche prochain, nous avons donc le culte avec le pasteur Richard Cadou, qui sera le pasteur à l'oratoire au 1er juillet avec moi-même pour faire équipe. Donc c'est une occasion peut-être de le découvrir et en tout cas voilà, d'avoir ce temps de culte comme nous voulons l'avoir voilà, chaque dimanche à 10h30 ici même. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est une occasion de mettre en perspective notre existence en faisant place, voilà, à Dieu dans nos moyens matériels également.
Dieu notre Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande, que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière écrite par le pasteur André Dumas. Ô notre Dieu, nous sommes en solidarité avec ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. De loin ou de près, nous partageons leur détresse et leur espoir. Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-mêmes et à étirer notre cœur jusqu'aux frontières où les hommes souffrent et transforment le monde. Mets-nous en solidarité avec l'étranger que nous ignorons, avec le démuni que nous effaçons, avec le prisonnier que nous évitons. Ô Dieu notre Père, que la solidarité soit ainsi un nom nouveau, un nom actuel, pour cette fraternité à laquelle tu nous appelles sans cesse. Mais ô notre Dieu, rends-nous solidaires dans la vérité et non pas dans le mensonge des tactiques. Délivre-nous de toute solidarité qui tournerait à la partialité destructrice et qui nous entraînerait dans la captivité de nos propres amis. Car tu nous veux solidaires, mais non pas partisans. Toi qui as pris parti pour nous, sans jamais nous mentir sur nous-mêmes. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires dans l'efficacité et non pas dans le verbalisme des déclarations. Délivre-nous de toute solidarité qui tournerait à l'inflation vaine et qui nous plongerait dans la paille des mots sans le grain des choses. Car tu nous veux solidaires, mais non pas tribuns, toi qui es toujours parole unie à la vie, parole en acte, fût-ce dans le silence. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires dans l'espérance et non pas dans la dramatique des catastrophes. Délivre-nous de cet obscur besoin que nous avons parfois de la souffrance humaine, comme si la souffrance pouvait être un quelconque bien, sauf pour celui qui dure en l'endurant. Car tu nous veux solidaires, mais non pas prophète de malheur. Toi qui as toujours voulu pour les hommes la justice et la liberté, la joie et la paix. Ô notre Dieu, rends-nous solidaires en humilité, car nous ne sommes pas capables de porter la terre entière. Délivre-nous de l'accablement qui n'aide personne et de la pitié qui empoisonne tout. Car tu nous veux solidaires de celui dont nous devenons vraiment le prochain. Ô notre Dieu, purifie nos solidarités, rends-les vraies, fécondes, ardentes, humbles. Nous te le demandons, au nom de celui qui a été résolument solidaire de l'homme abandonné et méprisé, Jésus. Seigneur notre Dieu, nous portons vers toi tous ceux et toutes celles que nous désirons te présenter. Nos proches, nos lointains, ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous avons du mal à aimer, ceux avec lesquels nous sommes peut-être en conflit. Oui, ceux-là aussi, nous te les présentons, espérant en toi trouver réconciliation. Nous te nommons ces êtres dans le secret de notre cœur. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, tout à coup, il y eut, avec l'ange, une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. » Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Il tourne son visage vers vous et il vous accorde sa grâce. Il porte sur vous son regard et il vous donne la paix. Allez dans la reconnaissance, dans la confiance, dans la joie. Amen.